Bien, bonsoir. Donc, merci d'être venu, d'avoir bravé, comme le dit Vincent Goljac, la canicule. Merci à Vincent Goljac d'avoir accepté l'invitation de Mola pour présenter son ouvrage « Le capitalisme paradoxal », ouvrage écrit avec Fabienne Annick. Et à titre personnel, je vais remercier la librairie Mola d'avoir pensé à moi pour présenter Vincent Goljac et cet ouvrage, car il ne le savait pas, mais ça me donne l'occasion de revoir Vincent Goljac que, grosso modo, je n'avais pas vu depuis 35 ans, lorsqu'il était mon directeur de mémoire de DEA. Voilà. Alors, à l'époque, il n'était pas le professeur émérite de sociologie de l'université Paris 3, René Descartes. Paris 7, René Descartes, qu'il est effectivement devenu. Et Fabienne Annick est aussi professeur à Paris 7. Il était alors jeune maître de conférence ou maître assistant, je ne sais plus. Alors, si je me permets cette évocation biographique, c'est parce que, justement, dans l'enseignement de Vincent de Goljac et de son équipe, on apprenait à s'autoriser à parler de soi. Alors, s'autoriser à parler de soi, ça ne veut pas dire apprendre à se vendre. C'était plutôt une manière d'apprendre à écouter ses émotions, un peu au sens, je dirais, de Alice Miller. Et il me semble que s'autoriser à parler de soi, c'était une condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour tout simplement s'autoriser à penser. En plus, cet enseignement de mon temps, il avait lieu non pas à Paris 7, voilà. Mais il avait lieu à Paris 9. Paris 9, Dauphine, qui est une université qui est plutôt spécialisée dans l'enseignement de la gestion. On y fait des gestionnaires, on y produit aussi beaucoup de financiers, des traders et toute cette population-là. Or, une grande partie quand même de l'œuvre de Vincent de Goljac constitue une critique acéré de ce déploiement des systèmes de gestion depuis à peu près 40 ans. Alors, quelques titres des ouvrages qu'il a fait en témoignent. Alors, je pense notamment au Coût de l'excellence, écrit avec Nicole Aubert, et qui était d'une certaine manière le pendant du Prix de l'excellence, qui était un best-seller de la littérature managériale dans les années 80. Je pense à un ouvrage comme La société malade de la gestion. Et puis, car comme l'enjeu est aussi de voir quels peuvent être les effets délétères de ces systèmes de gestion sur les gens, sur les travailleurs, sur le sens du travail, pour reprendre le titre encore d'un ouvrage de Frédéric Annick, eh bien, je pense à un autre ouvrage que l'on retrouve aussi en poche, qui s'appelle Travail, les raisons de la colère. Voilà, je ne voulais pas faire le clin d'œil, mais voilà, c'est fait. Alors, voilà pour une partie des thèmes qui ont été abordés dans ces ouvrages par Vincent de Goljac. Alors, il y a, je pense aussi, un pan plus théorique dont je voudrais effectivement parler, c'est l'élaboration conjointe que tu as fait, bien sûr, avec des collègues, avec des membres du laboratoire du changement social, de ce qu'on pourrait appeler une orientation théorique, une méthode, un chemin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sociologie clinique. Et tu es aussi président du Réseau international de sociologie clinique. Alors, il y a un ouvrage qui s'appelle Sociologie clinique, qui est un ouvrage collectif, qui a été dirigé donc, par Vincent Goljac, par Frédéric Annick.
Fabienne.
Fabienne. Excuse-moi sur les prénoms, je suis tout. Oui, en plus, c'est écrit là. Fabienne. Oui. Bon, voilà. Fabienne Annick et Pierre Roger.
Pierre Roche.
Pierre Roche, voilà, tu vois, bon, pour les prénoms, mais voilà, mes étudiants le savent, je suis une catastrophe. Bon, donc, alors je ne vais pas résumer cet ouvrage qui est en livre de poche, ça, je peux effectivement vous le dire, mais je vais vous dire simplement deux choses. Bon, C'est vrai que, donc vous avez vu que je n'ai pas fait ma carrière avec Vincent là, depuis 30 ou 40 ans, mais c'est vrai que quand j'ai vu l'appellation sociologie clinique apparaître, parce qu'elle n'était pas si posée que cela, d'après mes souvenirs dans les années 80, au début, je me suis dit, tiens, c'est une manière distinguée de se démarquer, mais je n'en avais pas vu tout de suite la vraie valeur heuristique. Parce que je me disais, est-ce que ce n'est pas un petit peu tautologique par rapport à une psychologie sociale que je connaissais et qui était celle d'un cabinet qu'on appelle la RIP, qui avait des gens comme Jeanne Henriquez, Guy Palmade, et puis il n'était pas forcément de la RIP, je crois, mais Max Pagès. Donc je me disais, est-ce que ce n'est pas un petit peu tautologique? Et puis je dirais, 35 ans plus tard, rétrospectivement, je saisis mieux ce qui a été, je crois, la valeur de cette démarche. Au moins d'abord pour deux raisons. C'est parce que la psychologie et la psychologie sociale ont, il faut bien le dire, perdu leur sens clinique, très souvent, au sens de clinique freudienne. Et que d'autre part, je trouve que ça permet aussi, d'une certaine manière, de se positionner contre une certaine tendance qui pouvait être la psychologisation des questions sociales, ce qui n'est pas, bien sûr, le but de cette sociologie clinique qui va essayer d'articuler le registre du social avec le registre du psychologique. Si je devais définir très rapidement, puis je vais lui laisser la parole, hein, pas d'inquiétude, ce que c'est peut-être pour moi la sociologie clinique, j'aurais dit c'est un développement subtil d'un freudo-marxisme qui n'a pas toujours été dans le temps effectivement subtil. Alors si je dis ça, c'est parce qu'il me semble que quand même, dans ce freudo-marxisme, le pôle Freud est beaucoup plus fascinant. C'est-à-dire, je crois que tu as quand même été plus fasciné par la lecture de Freud que par celle de Marx. Et c'est vrai que le pôle social, il n'y a pas que Marx dans la sociologie clinique, il y a effectivement beaucoup, effectivement, d'autres auteurs. Alors pour mentionner cette sociologie, je vais juste mentionner deux phrases que je garde de ma formation d'il y a 35 ans, voilà, et qui me semblent pouvoir être une introduction à la sociologie clinique, et on le verra ensuite aux quelques questions que je voudrais te poser par rapport à l'ouvrage de ce soir. Alors la première, c'est une question qui est une question opérationnelle que l'on peut poser dans les enquêtes, dans la recherche, qui était la suivante: quand on attaque TLTX devant vous, est-ce que vous vous sentez attaqué? Alors TLTX, c'était une organisation, en fait, c'est IBM, maintenant je crois on peut le dire, qui est l'organisation hyper moderne, la multinationale, qui a été étudiée dans un des premiers ouvrages écrits avec Max Pagès et Michel Ponetti par Vincent de Goleja, qui s'appelait « L'emprise de l'organisation ». C'est une phrase, voilà, que vous pourriez transposer, dire au libraire de chez Mola, « Quand on attaque Mola devant vous, est-ce que vous vous sentez attaqué ?» Et vous voyez que la réponse est sans doute entre une totale indifférence et une fusion totale, quelque chose qui serait effectivement de la juste distance. Et je vous dire qu'à travers de cette phrase, eh bien, j'avais appris que l'organisation, je ne sais pas si elle avait effectivement une âme ou un inconscient, mais que l'on pouvait trouver intéressant d'apprendre à décrypter les formes d'investissement psychique et émotionnel que les individus peuvent avoir à l'égard des organisations pensées comme objet de désir et objet d'amour. Et à l'heure aujourd'hui où on parle beaucoup des identités, soit des identités volatiles, soit des identités radicalisées, je ne sais jamais trop me dépatouiller avec le terme d'identité, mais je trouve que regarder les processus d'identification, c'est parfois la meilleure manière de s'y retrouver. Et aussi, d'une certaine manière, on peut voir, il n'y a pas d'organisation schizophrène ou névrotique, mais voir comment une organisation peut favoriser des comportements schizophrènes ou peut favoriser des comportements pervers. La deuxième phrase, c'était un peu le credo quand même de l'époque, et je pense que tu l'as toujours conservé, c'est une phrase de toi: l'homme est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Et ça, je crois que cette phrase, elle évoque un autre aspect de l'œuvre de Vincent de Goleja-Jacques, une autre manière qui a été pour lui d'articuler les registres psychiques et sociaux, c'est tout ce traitement des histoires de vie qui avait été initié dans le groupe Germinal, avec un titre que je trouve qui parle en lui-même, roman familial et trajectoire sociale, avec des livres qui ont été produits, que ce soit l'histoire en héritage ou autre livre, les sources de la honte, ou éventuellement la névrose de classe. Alors de la névrose de classe à la lutte des places, autre titre que l'on doit à Vincent de Gaulle-Jacques et d'autres auteurs, je crois que vous étiez deux, il me semble.
Isabelle Taboada Leonetti, voilà. Et Frédéric Blondel, voilà. Dans la réédition.
Voilà. Eh bien, il me semble qu'on est passé d'une société favorisant peut-être des comportements névrotiques à une société favorisant des comportements psychotiques. C'est une des lectures que l'on peut faire de ton ouvrage. Alors, je vais te laisser la parole. Je vais te poser trois questions. Comme ça, tu les traites comme tu veux. Tu peux dire autre chose, hein, bien sûr, ici, c'est le principe de l'animation et des questions. D'abord, une question, puisque c'est le titre, qu'est-ce qu'un système paradoxant ? Et peut-être nous éclairer sur la distinction que tu fais entre contradiction et paradoxe. Une deuxième question, qui serait tout simplement de nous dire à grands traits, voilà, comment le capitalisme est-il devenu paradoxant ? Depuis que je t'ai quitté, d'une certaine façon. Et une troisième question, c'est comment vit-on dans un système paradoxal ? Voilà. Alors, si je réponds à ces trois questions, vous aurez déjà une bonne connaissance du contenu du livre.
Merci Thierry. Vous voyez, c'est ça qui est formidable dans le métier de professeur, c'est quand même d'avoir la chance d'avoir des étudiants comme Thierry et de plaisir de te retrouver et le plaisir de voir combien tu as bien compris ce que j'ai essayé de faire et tout. Donc, c'est très réjouissant de te retrouver là. Et en particulier, effectivement, dans cet univers particulier de Dauphine. Je voudrais dire un mot sur Dauphine parce que moi, il se trouve que je suis le premier docteur de Dauphine, non pas par importance, mais parce que je suis le premier à avoir soutenu ma thèse à Dauphine en 71. Et donc, à l'époque, le projet de Dauphine était un projet de science des organisations. Et les deux fondateurs de Dauphine, Hubert Brochier et Pierre Tabatoni, avaient conçu ce projet comme un projet scientifique par rapport à un objet qu'on n'avait pas vraiment étudié jusqu'à cette époque, qui était l'organisation. Il y avait des organisations partout, et ils avaient cette idée qu'il fallait comprendre qu'est-ce que c'était que les organisations. Et il y avait trois disciplines de base à Dauphine, les mathématiques, l'économie et la psychosociologie. Les fondateurs de Dauphine considéraient que la gestion n'était pas une science. Et j'ai vu avec Thierry, et je pense que je suis content de partager ça avec toi, comment ce beau projet scientifique de sciences des organisations s'est transformé en projet politique de science au pluriel de la gestion. C'est-à-dire des sciences pour agir, hein, comme disent les gestionnaires ici, pas d'état d'âme, l'important c'est l'action. Et en fait, et une université pour former des élites qui vont optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. C'est-à-dire non plus pour comprendre l'organisation, mais pour la gérer. Et donc, on a assisté, effectivement, je dirais, à la naissance, quelque part, des sciences de la gestion. Elles existaient déjà ailleurs, à HEC, dans les grandes écoles, etc. Et ça s'est considérablement développé. Et ce n'est pas seulement des sciences qui se sont développées comme ça, c'est aussi une certaine conception du pouvoir, de la politique, de la gestion des sociétés, etc. Et on voit, entre ces moments de Dauphine qui étaient vraiment les balbutiements et ce qui se passe aujourd'hui où l'univers de la gestion, hein, l'idéologie managériale a envahi d'abord le privé, puis après, la modernisation des entreprises publiques, c'est ça, hein, c'est d'appliquer ce nouveau modèle, ce que le MEDEF va appeler dans les années 90 la révolution managériale. Et puis, dans la bonne gestion, hein, pour rendre efficiente la gestion publique, et donc dans les institutions publiques, la réforme hospitalière, la réforme de l'université, aujourd'hui la réforme de l'État. Et il faut bien voir que c'est une dimension de la globalisation qui est peu mise en avant et qui débouche sur ce qui se passe aujourd'hui avec la Grèce, l'Europe et la Grèce. C'est dans la même logique. C'est-à-dire, vraiment, ces Grecs, c'est des enfants qui ne savent pas gérer, quoi. Qui ne sont pas responsables. Hein, il faut leur apprendre à devenir efficients, hein, à optimiser le fonctionnement des institutions grecques pour qu'ils arrêtent d'être grecs, quoi. En fait, ils arrêtent de faire n'importe quoi. Hein. Et puis il faut mettre de la rationalité, de la transparence, de l'objectivité. Il faut mettre ce modèle au service de la politique. Et donc, c'est une vraie question politique, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ne gouvernent plus, ils gèrent. Et la grande déception de la gauche et de François Hollande, c'est que certains ont cru que la gauche arrivant au pouvoir, ça serait différent de la droite, en particulier sur cette gestion, sur la conception de la politique. Et vous voyez, les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche maintenant, ils pensent qu'ils vont être évalués en fonction de la bonne gestion. Et donc, l'indicateur de la valeur d'une politique, c'est le taux de chômage, le taux de croissance et le montant de la dette, c'est-à-dire des indicateurs de gestion. Et c'est là-dessus qu'ils disent, avec la complicité de beaucoup, hein, qu'ils vont être évalués et non pas en fonction de leur représentation de quelle société on veut, dans quelle société on veut vivre. Alors, ça veut dire, hein, c'est un des aspects d'une des questions, pourquoi le capitalisme est devenu paradoxal, c'est parce qu'on est maintenant dans une économie, hein, dans une société au service du développement économique et non plus dans une économie au service du développement de la société. Et ça, vous l'avez, ce renversement, vous l'avez dans l'idéologie managériale et dans ce qu'on a appris avec Thierry, hein, qui a commencé à émerger dans les années 70-80, qui est, par exemple, la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est typique de cette novlangue managériale et qui ont... Moi, je suis toujours surpris de la défaite idéologique à la fois des partis de gauche, mais aussi des syndicats par rapport à ça, qui n'ont pas réalisé que leur adhésion massive à la gestion des ressources humaines était liée au fait que, d'abord, on parlait d'humain, donc ils pensaient qu'on allait remettre l'humain au centre, et ensuite qu'on allait mettre en place une gestion rationnelle, transparente, un peu plus objective des ressources humaines par rapport à ces services du personnel un peu bureaucratiques, arbitraires, où on ne savait pas bien ce qui se passait, etc. Et donc ça a été vécu comme un progrès. Alors que c'est une régression idéologique majeure, puisque quand on ne simplement le fait de parler de gestion de ressources humaines, c'est de considérer que l'humain est une ressource, donc un moyen au service du développement de l'entreprise ou de l'organisation. Et le renversement, c'est qu'on pourrait penser que c'est plutôt l'organisation et l'entreprise qui devraient être un moyen pour le développement de l'humain. Et ça, cette entourloupe, hein, c'est ça la novlangue managériale, c'est qu'elle vous enveloppe les contradictions de telle façon que la conflictualité, on ne la voit plus, que les contradictions disparaissent pour faire émerger, justement, à partir du moment où on ne peut plus travailler sur les contradictions, par exemple des intérêts opposés, des conceptions différentes, hein, entre la gauche et la droite, entre les patrons et les ouvriers, entre les hommes et les femmes, tout ce que vous voulez, mais qu'on les mette, hein, au travail, à partir du moment où on fait comme si, hein, il n'y avait plus de contradictions, et ben ces contradictions, elles se transforment en paradoxes. Et elles sont intériorisées par l'individu de telle façon qu'il ne sait plus très bien où il en est, et ça produit un phénomène massif que l'on voit dans tout le monde du travail, où les gens vous disent « je ne comprends plus », la perte de sens, la fameuse perte de sens. Alors ça, c'est le premier point en écho à la présentation de Thierry. Et le deuxième point, donc, moi j'ai rencontré ces questions-là. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est comme ça, dès les années 70. Alors, d'abord, parce qu'on en avait marre avec Max Pagès que les étudiants de gestion à Dauphine considèrent que la psycho et la socio, c'était comme le dessin et la musique au lycée, c'était des disciplines pour se détendre, quoi, mais pas sérieux, hein, ça, on n'en a pas vraiment besoin. Et donc, on avait décidé de faire une recherche sur le pouvoir dans les organisations, et en particulier sur sa nouvelle forme de pouvoir, le pouvoir managérial. Et on a eu une chance formidable de pouvoir faire ce travail à IBM. Pourquoi à IBM ? Parce qu'il y avait un DRH, alors ça c'était nouveau, hein, directeur des ressources humaines, d'IBM, qui avait fait un groupe de dynamique de groupe avec Max Pagès, qui avait introduit Rogers, Carl Rogers, les dynamiques de groupe, la non-directivité en France, hein, dans cette psychosociologie à la RIP, justement. Et ce directeur des ressources humaines, qui était quelqu'un de très bien, comme beaucoup d'ailleurs, un humaniste, un grand humaniste, nous avait demandé de venir chez lui parce qu'il disait, il voulait réconcilier en fait sa fibre psychosociologique découverte dans la dynamique de groupe avec Max Pagès et sa fibre de gestionnaire performant à IBM, où il nous disait, venez chez nous parce que chez nous on a réconcilié l'homme et l'entreprise. Il n'y a plus de contradiction entre le capital et le travail. Ici, il n'y a pas d'exploitation. Vous allez voir les gens. Et effectivement, on arrive à ce qu'on a appelé TLTX, qui était IBM, et on tombe sur des gens qui nous disent « je suis exploité de façon agréable ». Je crois très fort aux grands principes de cette entreprise, et les grands principes de l'entreprise, c'était que chaque manager avait sur son bureau un manuel de management qu'ils appelaient « The Good Book », »,« The Bible », »,« La Bible », et qui étaient des principes dans lesquels, célébrant la considération de la personne, et célébrant la performance, mais la performance pas seulement pour l'entreprise, mais la performance aussi pour les hommes. Et le contrat qui était le fait que si vous vous défoncez pour le travail et que vous travaillez bien, vous devez avoir une juste contribution et récompense des efforts fournis à l'entreprise. Ce qui va devenir effectivement une terminologie qu'on a, hein, par exemple, jouer gagnant-gagnant. Et on a été frappé par l'extraordinaire adhésion que provoquait ce modèle de management, qui ne fonctionnait plus à la répression, qui n'est au fonctionnement disciplinaire, hein, que Michel Foucault a analysé dans Surveiller et Punir, par exemple, mais quel taylorisme, hein, où il y avait le chef qui disait comment il faut faire, comment il faut pas faire, et puis si vous faites bien, eh ben ça va, si vous faites pas bien, vous êtes sanctionné, etc. C'est-à-dire tout ce système qui était le système hiérarchique, pyramidal, patronal, disciplinaire, qui était le système dominant dans toutes les organisations et en particulier dans les entreprises, eh bien, IBM vous présentait un nouveau modèle qui était pour le qui était pas seulement pour faire du profit, mais qui était aussi pour le progrès de l'humanité et d'apporter une nouvelle technologie qui allait permettre de résoudre toutes les contradictions auxquelles étaient confrontées les entreprises, et en particulier résoudre les contradictions, hein, les vieilles contradictions marxistes, puisque je vais parler de Marx, puisque tu dis que je veux me réfère plus. J'ai adoré le freudo-marxiste subtil. Hein.
Oui.
Ça, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire de montrer pourquoi le freudo-marxiste était intéressant, parce qu'on voyait bien comment IBM était une structure de médiation qui permettait à la fois de trouver des réponses et des médiations à la contradiction capital-travail dans le champ économique et à la contradiction du désir et de l'angoisse dans le champ psychologique, en permettant aux travailleurs de transformer leur libido en force de travail avec un plaisir et une excitation, une jouissance, je dirais, qui était tout à fait impressionnante. Foucault disait le système disciplinaire, c'est pour les rendre les corps utiles, dociles et productifs. C'est pour une bonne part, hein, comme force de production, que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination, dit Foucault. Hein, le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Vous remplacez dans la phrase de Foucault « corps par psyché » et vous avez exactement l'essence de ce nouveau pouvoir managérial. C'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient énergie utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. C'est-à-dire, c'est la mobilisation psychique au service des objectifs de l'entreprise. Et on découvre que ça ne se fait pas ça par une conviction en termes de dire voilà ce qu'il faut faire. Ça se fait par l'intériorisation, hein, de l'exigence, par exemple, de réussite, avec des outils de management extraordinairement efficaces pour ça, hein, qui provoquent l'adhésion. On vous donne des objectifs, management par objectif. Et vous êtes très libre sur la façon de remplir les objectifs. Hein. Et si vous remplissez vos objectifs, c'est bien. Si vous ne les remplissez pas, ce n'est pas bien. Et vous intériorisez le fait que vous êtes responsable de la performance ou de la non-performance. Et c'est l'ouverture sur cette culture de la haute performance qui va devenir non pas seulement une référence dans ces entreprises-là, mais qui va se généraliser hein, dans toutes les, chez les clients et les fournisseurs de ces grandes entreprises multinationales hein, qui vont vendre au monde entier ce nouveau modèle de management avec la complicité active et de business des Big Seven. C'était à l'époque, il y en avait Big Seven, puis après c'est devenu Big Six, Big Five, Big Four. C'est-à-dire c'est les grands cabinets de consultants, hein, KPMG, Deloitte, à l'époque c'était McKinsey, Accenture, etc., qui vont vendre ce modèle-là, d'abord dans le privé, puis après pour la modernisation des entreprises publiques, puis après pour les institutions, et aujourd'hui pour la réforme hospitalière, pour la réforme des universités, pour la réforme des ministères, pour la réforme de... Bon. Et c'est ce modèle-là que le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, les institutions européennes, etc., imposent à l'ensemble des pays, avec ce discours totalement paradoxal qui est de dire si ils imposent ça et ça produit des crises à répétition, je m'en expliquerai tout à l'heure, et il vous dit pour résoudre cette crise, c'est que vous n'en avez pas fait assez, donc il faut que vous soyez plus performant, il faut que vous soyez plus dans cette culture-là, il faut que vous appliquiez massivement les outils qui vont permettre de mesurer, hein, de faire du benchmarking, c'est-à-dire du ranking, c'est-à-dire on classe tout, on mesure tout, et on va faire des comparaisons, et on va vous montrer que la Grèce est le plus mauvais élève de la classe, et donc que la Grèce mérite d'être sanctionnée, et que si la Grèce veut devenir un bon élève de l'Europe, il faut qu'elle applique massivement, et ça fait des années qu'on applique massivement, ça fait des années, 5 ans en particulier, qu'on voit les dégâts économiques que produit l'introduction à dose massive hein, de réformes pour rendre la Grèce quoi, conforme aux autres pays et qu'elle s'adapte à ce modèle-là. C'est la nouvelle gouvernance, New Corporate Governance, que l'ensemble des anciens chefs d'État, d'ailleurs, ont fait un club pour justement diffuser cette nouvelle gouvernance au monde entier. Et cette nouvelle gouvernance, c'est en fait la gouvernance du TLTX. C'est exactement les mêmes principes, c'est exactement la même conception de l'homme, c'est exactement les mêmes outils en termes méthodologiques ou autres. Et ça produit quoi? Alors, je termine sur TLTX, parce que ça s'est appelé l'emprise de l'organisation, parce que le PUF, chez qui on a publié les presses universitaires de France, avait refusé le titre qu'on voulait lui donner, qui était « TLTX, mon amour ». Je trouvais d'abord que c'était poétique, puis il y avait eu un film MC2, Mon amour, etc., qui avait eu beaucoup de succès. On trouvait ce titre génial, et le PUF disait non, c'est pas sérieux, c'est pas un ouvrage scientifique. Hein, TLTX, Mon amour, c'est quoi? C'est des titres pour Fleuve Noir, pour la littérature de gare. Hein. Vous aurez remarqué d'ailleurs que la littérature managériale est devenue une littérature de gare depuis. Avant, elle était réservée aux rayons spécialisés dans les librairies. Eh bien, ils ont refusé TLTX Mon Amour. Et pourquoi on voulait l'appeler TLTX Mon Amour? Parce que justement, les gens étaient en fait amoureux. Les processus d'investissement dans le travail étaient du même registre que les processus d'investissement amoureux. Les gens étaient amoureux de leur entreprise. Et c'est dans le coup de l'excellence qu'on a fait quelques années après, avec Nicole Aubert, on a appelé ça le contrat narcissique. C'est-à-dire en fait, les gens projettent sur l'organisation, les qualités qu'ils voudraient pour leur propre moi, et ils introjectent les valeurs de l'organisation. C'est-à-dire, ils projettent leur désir d'excellence, de performance, d'être le meilleur. I want to be number one. Numéro un. Alors, il faut être numéro un dans tous les domaines, etc. Et ça, ça excite le désir. Hein, c'est-à-dire, vous voyez d'ailleurs, que ce soit dans le sport, dans la politique, etc., regardez cette incompréhension pour le commun des mortels que nous sommes ici, de ces salaires faramineux que les dirigeants de ces entreprises-là, il y a l'impression qu'il n'y a pas de limite, hein, toujours plus. Et pourquoi ? Ben parce qu'on voit bien que c'est une question de désir. I want to be number one. C'est pas rationnel du tout. Et pourtant, c'est les mêmes qui vous font un discours sur la rationalité, la mesure des résultats, etc. Et les mêmes qui demandent 300 millions, 400 millions, 500 millions. Ça n'a plus aucun sens. Et pourquoi ? On peut pas comprendre ça si effectivement on comprend pas que ça vient titiller ce qui est du registre du désir de toute puissance et du désir de cet investissement-là. Et donc on vous propose d'être performant, on vous propose d'être excellent, on vous propose de vous réaliser, de réaliser vos aspirations et vos désirs en vous investissant corps et âme dans le travail, dans l'action, dans la performance. Alors ça, c'est un aspect qu'on avait analysé et on a été frappé de voir qu'au départ, on n'était pas nombreux à travailler là-dessus. Quand on a commencé cette sociologie du management, par exemple, les gens de sociologie du travail pensaient qu'on était vendus au grand capital, parce qu'on faisait en plus des interventions sur le terrain, alors vous imaginez. Et les gens de sociologie des organisations étaient encore dans une systémique, mais ils n'avaient pas vu qu'ils nous accusaient de psychologisme. Parce que justement, comme on parlait d'amour, de mobilisation psychique, d'intériorisation des exigences de l'organisation, de projection de son propre idéal sur l'idéal de l'organisation, etc., on était des affreux psychologues. Et vous savez pas que les sociologues sérieux, ceux qui font de la vraie sociologie, ils savent que toute explication psychique des phénomènes sociaux est fausse. Donc que ce qu'on faisait de la psychosociologie, c'était... Et alors j'en viens à la sociologie clinique. La sociologie clinique, elle est vraiment en filiation de cette psychosociologie-là. Mais cette psychosociologie a tellement été dévalorisée, doublement dévalorisée, au niveau théorique dans l'université, comme... une non-science, un espèce d'entre-deux entre psychologie et sociologie, mais qui n'avait pas de droit de cité, et dans les entreprises, parce que ces psychosociologues, effectivement, ont donné des verges pour se faire fouetter, parce qu'ils ont introduit, par exemple, à EDF massivement la dynamique de groupe, pour essayer de mettre des meilleures relations entre les cadres et les salariés, etc. Mais les psychosociologues sont passés à côté de l'analyse de la révolution managériale et de l'analyse du pouvoir, en dehors de Angèle Henriquez, mais qui est un de mes collègues de Paris 7, sociologue clinicien, et avec qui on a créé, enfin, on a développé cette orientation-là. Ils ne voyaient pas les enjeux de pouvoir, ils ne voyaient pas les surdéterminations économiques. C'est-à-dire, ils étaient Freudo. Mais ils avaient effectivement oublié le marxisme, c'est-à-dire, on ne va pas revenir sur les théories de Marx, mais sur le fait des déterminants économiques. Et un des gros problèmes de la sociologie dans son ensemble, de la psychosociologie, c'est qu'ils n'ont pas vu les transformations du capitalisme. Alors, j'en viens au livre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu une synthèse de 20 ans ou 30 ans de recherche, pour essayer de mieux comprendre les liens qui peuvent exister entre l'évolution du capitalisme, les mutations des formes d'organisation du travail avec ces nouveaux outils et pratiques de management, et les conséquences pour les individus en termes psychologiques, en termes du mal-être, des risques psychosociaux qu'on appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que cette contradiction qui peut exister dans notre monde aujourd'hui, dans le monde du travail, entre l'extraordinaire amélioration des conditions objectives de travail, travailler à IBM et travailler dans les mines ou dans l'industrie, il n'y a pas photo, je veux dire, en termes de confort, en termes d'avantages, évidemment, ce n'est pas comparable. Donc, ce modèle de performance, tout le monde a adhéré massivement parce que les conditions objectives, évidemment, sont bien meilleures. Sauf que, et c'est une des contradictions, c'est que l'amélioration de ces conditions objectives semble corrélative avec une détérioration des conditions subjectives. C'est-à-dire que les gens... Maintenant, la conflictualité s'est déplacée du niveau social au niveau psychique. Dans l'entreprise, dans l'usine, patronale, hiérarchique, disciplinaire, il n'y a pas besoin de penser et d'avoir fait 10 ans de sociologie ou d'avoir lu le Capital de Marx pour savoir qu'il y a des intérêts contradictoires entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, entre les patrons et les ouvriers, entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. Et donc, quand on n'est pas d'accord, eh ben, il faut se mobiliser collectivement pour obtenir une amélioration des conditions matérielles de travail, pour obtenir une augmentation de salaire, pour obtenir le droit de se représenter, pour obtenir une meilleure protection sociale, etc. Ça, c'est la tradition ouvrière, la culture ouvrière, hein, qui, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, va développer ces luttes, cette conflictualité sociale. Alors, on peut l'appeler lutte des classes, on peut l'appeler mouvements sociaux, on l'appelle comme on veut, mais je dirais jusqu'en 68, en fait, ça ne veut rien dire de mettre une date, mais c'est symbolique. Ben, ça a marché, ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on savait que si on voulait obtenir quelque chose, il fallait se mobiliser. Et ça a marché pour deux raisons. À la fois parce que ça permettait de faire de la politique, vraiment, c'est-à-dire décider sur des représentations différentes du monde, des aspirations différentes. Et puis parce que cette vision de dire, de la lutte des classes, par exemple, de dire, si on se mobilise, nous les travailleurs, nous les damnés de la terre, ensemble, on peut changer la société, on peut changer le cours de l'histoire. On peut devenir sujet de l'histoire. Formidable espérance. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais au moins de le croire, c'était pour des générations d'ouvriers, des générations de travailleurs, l'espoir que leurs conditions n'étaient pas établies une fois pour toutes et qu'ils avaient la possibilité de changer les choses. Et d'ailleurs, ça a débouché sur 68. Hein, on peut changer la société, on peut changer la vie. Et le slogan des socialistes de 80, changer la vie. C'est-à-dire, c'était quand même une force en termes de politique, hein, tout à fait intéressant. Et aujourd'hui, hein, c'est le désenchantement, dirait Marcel Gaucher. Aujourd'hui, où elle est cette conflictualité? On a l'impression qu'elle est désamorcée, qu'elle s'est délitée. Et quand vous interviewez, alors les enquêtes qu'on fait sur le terrain, quand vous interviewez les gens et que vous leur dites comment ça va, ils se... Une grande lassitude, les épaules s'affaissent et ils vous expliquent qu'en fait, ils sont déprimés, qu'ils avaient, ben, qu'ils pensaient réaliser leur vie par le travail et puis qu'en fait, ben, le travail devient de plus en plus précaire, qu'ils sont de plus en plus stressés, que ça ne marche plus comme ils l'espéraient, qu'on leur demande toujours plus avec moins, et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils n'y croient plus, et puis qu'ils perdent l'amour du métier, et qu'ils perdent leurs compétences, et qu'ils perdent la maîtrise sur le monde, la maîtrise sur le travail. Au moins, quand on faisait des objets, l'œuvre, hein, l'homo faber, ben, on pouvait retrouver de la fierté dans la voiture qui était bien faite, la pièce qui avait été bien ajustée, etc. Là, on leur demande, sur leurs écrans, ils font quoi? Ils font quoi? On leur dit qu'ils créent de la valeur. Ils créent de la valeur, ça pourrait être intéressant, ça. Mais en fait, ils savent bien qu'il y a quelque chose de leurrant dans cette valeur qu'ils créent. Hein, ils créent de la shareholder value, de la valeur pour l'actionnaire. C'est-à-dire que maintenant, les cadres vous disent ça, hein, quand ils rentrent dans leur bureau, ils sont devant l'écran. Et puis, tout de suite, ils regardent le cours de la bourse. Et si le cours augmente, alors, oh, on a bien travaillé, on est bien, on est au top, là. On est dans les objectifs, c'est super. Si ça baisse, oh la vache, il faut qu'on en mette un coup, parce que là, ça ne va plus, hein, c'est en train de baisser. Comme s'il y avait un rapport entre le travail réel et sa traduction en termes de valeur financière. Ça pourrait donner du sens. Et pendant un certain temps, d'ailleurs, le capitalisme avait du sens. C'est-à-dire, la valeur des entreprises était liée à la qualité de leur production. Hein? Il y avait un rapport entre l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie de production, ce qu'on faisait dans les usines, dans les bureaux, le travail qu'on fournissait, hein? Et puis l'économie, alors, hein, la valeur, l'économie financière, le capitalisme financier. Alors, il y a trois causes sur l'émergence. Vous voyez, il était un bon étudiant, mais moi, je suis un bon élève aussi. Je vais répondre à ces questions. La première, il y a trois causes à cette émergence de ce qu'on a appelé le capitalisme paradoxal, c'est-à-dire cette capitalisme dans lequel on a le sentiment d'être qu'on n'arrive plus à trouver des médiations ou contradictions qui traversent l'économie, l'organisation, etc., mais qu'on est pris dans des injonctions paradoxales permanentes. J'expliquerai, si vous voulez, la différence entre contradiction et paradoxe. Mais là, simplement pour terminer cet aspect des choses sur qu'est-ce qui a été l'élément déterminant en termes économiques au niveau du capitalisme, c'est la dérégulation des marchés financiers à partir des années 80-90, qui fait qu'il y a eu une déconnexion entre les règles du capitalisme financier, hein, l'économie, les marchés financiers, ce qu'on appelle les marchés financiers, et ce qui fait peur à tout le monde, sauf peut-être à ceux qui ont fait Dauphine. C'est pour ça que moi, j'en ai pas peur, alors que je vois tous mes collègues sociologues qui n'ont pas de formation économique en gestion, etc. Ça leur fait peur, alors que, parce qu'ils ne comprennent rien, et ça les ennuie. Et puis, ils disent, c'est pas pour nous, alors qu'ils ne voient pas que c'est quand même le moteur de l'histoire aujourd'hui. Et que c'est important pour des sociologues, et pour nous tous, les citoyens, de comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, ce monde abstrait de la finance. Et même les financiers ont du mal à comprendre ce qui s'y passe. Alors évidemment, donc on fait confiance, on réfléchit par procuration, c'est-à-dire on paye des gens pour s'occuper de ça à la place, d'où le succès des grands cabinets de consultants qui vous font des audits, qui vous font de la prescription pour vous montrer comment on va appliquer ça, etc. Mais au lieu de vous faire penser à ce que ça produit, hein, ils vous disent d'appliquer des recettes qui vont être la solution. Je le dis, par exemple, hein, pour lutter contre ça, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution dans l'approche solution. C'est-à-dire, il faut lutter contre les paradoxes par des paradoxes. C'est-à-dire, si on vous dit, hein, mais vous nous faites un diagnostic, mais quelle est la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites, non, je regrette, si vous voulez avoir la solution, il faut sortir de ce mode de raisonnement, hein, qui consiste à dire, par exemple, comme beaucoup de managers ou de dirigeants, bon, vous me faites, là c'est très bien votre note de 1, mais vous me la résumez en 3 phrases, et puis voilà, parce que c'est l'urgence, et puis parce que on n'a pas de temps à perdre, hein, à penser les choses, etc. On sait que c'est la complexité, bon, mais ça, il nous faut 3 phrases par... Et alors on fait la pensée PowerPoint, et si votre diagnostic ne rentre pas dans la pensée PowerPoint, c'est même pas la peine de l'exposer. Je navigue, hein, pour de passer du capitalisme au PowerPoint, parce que c'est un même système. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une cohérence entre tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du capitalisme? Quelque chose de très simple, c'est que cette déconnexion entre le capitalisme financier et le capitalisme de production fait que maintenant la valeur n'est plus liée à la production réelle, au travail réel. Il est lié à ce que auraient rapporté les capitaux investis dans l'entreprise si vous les avez, en fonction de la moyenne de ce que rapportent, hein, les capitaux investis sur le marché financier. Le VA, Economy Value Added. Je m'excuse, mais ces termes-là, c'est tous des termes anglo-saxons, hein, mais, et qui renvoient à des outils de gestion totalement très très sophistiqués, qui fait que cette révolution managériale ne s'est pas imposée en disant « c'est ça qu'il faut faire ». Elle s'est petit à petit diffusée par des outils de gestion, comme le lean manufacturing, comme le leverage buyout, les effets de levier, LBO, comme par exemple, la novlangue managériale. Ça va vous donner une indication pourquoi on n'arrive plus à savoir de quoi on parle. On ne parle plus de logique de profit aujourd'hui, c'est d'un gros mot. On parle de ROE, Return on Equity. Return on Equity, c'est-à-dire la juste rémunération que l'actionnaire doit recevoir en fonction du capital investi. Donc, si vous voulez, ça perd sa valeur. Profit, c'était évidemment... Profit, c'est... Alors, on vous dit d'ailleurs, profit, c'est un langage archaïque, ça renvoie au marxisme, donc vous êtes un crypto-marxiste. D'ailleurs, vos discours le montrent bien, etc. Donc, c'est bien, vous êtes encore sur des choses archaïques. Non, il faut que vous soyez dans la modernité. Hein, il faut que vous soyez donc dans ce langage, hein, qui fait qu'on ne va plus parler de plan de licenciement. Ça aussi, c'est un gros mot. On va parler de plan de sauvegarde pour l'emploi. Vous voyez la différence? Et l'Europe va vous proposer, par exemple, hein, comme finalité pour l'ensemble des entreprises, l'excellence durable. L'excellence durable, c'est aussi un oxymore. Un oxymore, c'est une formule qui contient une contradiction, mais qu'on ne voit pas. C'est comme... Alors, Victor Hugo, les poètes connaissent ça par cœur, c'est magnifique, une obscure clarté. Un silence assourdissant. Donc ça va, c'est joyeux pour l'esprit. Mais quand c'est dans le langage soi-disant de la rationalité, de l'objectivité, En fait, ça a pour fonction de gommer les contradictions. Alors, pourquoi excellence durable ? Ça gomme. Pourquoi ça nous. Ça produit du paradoxe. Hein, je voudrais vous expliquer ça parce que c'est très important. Une fois qu'on a compris ça, je crois qu'on a compris l'essentiel. Être excellent, c'est être hors du commun. Alors, par exemple, dans les entreprises aujourd'hui, on va évaluer vos performances ABCDE. E, c'est insuffisant. Quand vous travaillez à IBM, à l'American Express, dans toutes ces grandes entreprises, vous êtes sélectionné, vous avez toujours été les meilleurs élèves, vous avez fait les meilleures classes, dans les meilleurs établissements, pour préparer les meilleurs prépas, pour entrer à Dauphine, université d'excellence, ou HEC, ESSEC, les grandes écoles de commerce. Vous avez toujours été excellent. Ce n'est pas possible d'être insuffisant. Être insuffisant, c'est tellement la honte, d'ailleurs, que vous démissionnez avant même de risquer d'être catalogué d'insuffisant. D, c'est doit faire ses preuves. Bon, ça peut arriver, un petit accident de parcours. Vous êtes jeune, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas encore tout. Bon, on n'en parle plus. C, c'est satisfaisant. Satisfaisant, c'est moyen. Moyen, c'est quelconque. Enfin, excusez-moi, vous n'allez pas vous contenter d'être satisfaisant. Vous valez beaucoup mieux. C'est les fonctionnaires. Eux, ils se contentent. Hein, on leur donne 100 comme objectif, ils font 100. Bon. Mais le monde d'aujourd'hui, non. Vous devez être above expectation. Vous devez être au-delà des attentes. B, au-delà des attentes. Donc, on vous donne 100. Ah, l'objectif, évidemment, c'est de faire 110. Et A, c'est clearly outstanding, clairement hors du commun. En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'intérioriser la culture de la haute performance et de faire plus que ce qu'on vous demande. Et donc, vous, vous faites plus. Alors, l'année d'après, vous n'allez pas régresser. Donc, vous avez fait 110 pour avoir B. L'année d'après, votre 110, il devient 100. Normal. Vous n'allez pas faire moins. Donc, vous devez faire encore B. Et c'est ça l'exigence du toujours plus. Vous voyez, on ne vous demande pas de faire plus. Personne ne vous oblige à aller au-delà de 100. Satisfaisant. C'est vous qui intériorisez quelque part que, en fait, l'attente réelle, c'est effectivement. Et c'est ce qui s'appelle l'exigence du toujours plus. Alors, j'en viens à cette idée d'excellence durable. L'excellence durable, ça produit du paradoxe. Pourquoi ? Et pourquoi ça produit en même temps quelque chose de destructeur ? Parce qu'il faut bien voir que le paradoxe est destructeur. Parce que de demander à tout le monde d'être excellent dans la durée, c'est de demander à tout le monde d'être hors du commun. Et si tout le monde est hors du commun, que devient le monde commun ? Que devient la société ? C'est un des visages de la lutte des classes. Aude Harley, une des doctorantes du labo, a fait un travail formidable. Si elle n'a pas été invitée par la librairie Mola, il faudrait l'inviter. C'est un livre qui s'appelle « Le coût et le goût de l'exercice du pouvoir », dans lequel elle a interviewé 80 membres de cabinets ministériels, de gauche comme de droite. Et il y en a un qui lui dit « Je rêve d'une France de 60 millions de Laure Manaudou ». C'était il y a 10 ans. Laure Manaudou était championne du monde de natation. Je rêve d'une France de 60 millions de Laure Manaudou. D'abord, voyez le ridicule de ce rêve 10 ans après. Mais on est pour l'excellence durable. Je ne vous parle pas quand Laure Manaudou en aura mon âge. Moi, je m'en sors comme je peux en faisant des bouquins, mais performance... Bon. Et donc, voyez, de proposer à tout le monde l'excellence durable, c'est en fait produire un monde qui produit ce qu'il produit, avec le benchmarking, le ranking, etc. C'est-à-dire un monde dans lequel on va valoriser les pôles d'excellence, c'est-à-dire faire la réforme de l'université pour une seule finalité, qui est de gagner des places sur le classement de Shanghai. On va faire des classements, alors l'Express, le Point, chaque année, etc., vont vous faire le classement des meilleurs établissements à Bordeaux, des meilleures classes à l'intérieur des établissements et des meilleurs élèves à l'intérieur des meilleures classes. Et puis des meilleurs hôpitaux, et puis des meilleures universités, et puis des meilleures mairies, et puis des meilleures maires, et puis des meilleurs ceci, etc. C'est-à-dire le monde devient un vaste marché dans lequel que le meilleur gagne. Et on vous dit que celui qui arrive en tête est le meilleur. Et ça produit quoi, ça? Ça produit le syndrome Lance Armstrong, qu'on pourrait aussi appeler HSBC. C'est quoi le syndrome Lance Armstrong? Lance Armstrong est le champion cycliste le plus titré de l'ensemble de l'histoire du cyclisme. Et tout le monde savait que Lance Armstrong trichait. Et ceux qui l'ont dit au moment où il était champion, hein, il y a un des cyclistes du peloton qui a eu le malheur de le dire, il a été exclu. Il a été humilié, il a été rejeté. Et les médecins et tous et les journalistes qui ont essayé de le dire, ils ont été exclus, marginalisés. C'était quoi? Edward Snowden? Hervé Falatier? Et c'est eux qui sont sanctionnés, ce n'est pas Lance Armstrong. Et aujourd'hui, Lance Armstrong a avoué qu'effectivement il a triché, il a perdu tous ses titres, mais il a eu la gloire et il gardera la gloire, bien qu'il ait perdu les titres. Exactement comme la HSBC. La HSBC, je ne sais pas si vous avez suivi cette... La HSBC est quand même une banque, ce sont des voleurs, des corrupteurs, qu'on fait du blanchiment d'argent, qu'on fait participer à à une industrie d'évasion fiscale. Oh, pardon, on ne parle pas d'évasion fiscale. Non, non, le terme de la novlangue, c'est optimisation fiscale. Bon, qui devant la loi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, etc., tous ces gens-là devraient être en prison, comme les responsables de Goldman Sachs, comme les responsables d'un certain nombre de banques, hein, qui ont fait des malversations, qui ont triché, etc. Or, là, par exemple... pour vous donner une idée, la HSBC a négocié avec la justice suisse pour 42 millions que l'abandon des poursuites pénales, alors qu'on chiffre à peu près à 14 milliards les gains que HSBC a eu grâce à ces pratiques-là. Alors vous me direz, mais quel rapport avec la Grèce? Ben, par rapport à ce qui se passe, hein, c'est le peuple grec qui est... qui est retenu comme responsable, puisque c'est à eux qu'on demande de payer la facture. Vous voyez, et c'est ça l'excellence. C'est ça que... C'est très intéressant, parce que hein, c'est ça que Christine Lagarde et le FMI, les institutions européennes, la banque, avec des variations différentes, mais disent... Hein, le discours qui est tenu, c'est de dire « mais c'est eux qui n'ont pas tenu leurs engagements, c'est eux qui trichent !» Et voyez pourquoi c'est paradoxal et pourquoi ça nous fait mal au cœur quand on commence à comprendre ça, c'est que d'en dire « c'est eux qui trichent », il y a quelque chose de totalement révoltant. Il y a quelque chose qui, je m'excuse du terme, déconne au niveau du raisonnement, au niveau mental, pour comprendre vraiment ce qui se passe. On sait bien que c'est pas si simple que ce que je viens de dire. Hein, on sait bien que c'est sans doute beaucoup plus contradictoire, etc. Mais je viens de le faire simplement pour faire un lien, parce que Lance Armstrong, c'est pas contradictoire. C'est bien un tricheur. Lance Armstrong devrait être en prison. Et combien ont bénéficié de Lance Armstrong? Combien ont cru en Lance Armstrong? Et combien souhaitent continuer à croire en Lance Armstrong? Parce que c'était beau. C'était beau. Et c'est ça la production de l'adhésion aussi. Alors, c'est ça que j'ai essayé de montrer, mais je vois qu'il voit sa montre. Alors, est-ce que...
Oui, merci Vincent. Alors, je crois que là, dans ce récit, on a vu déjà beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, comment faire de la politique dans une société gestionnaire. Et aussi, dans ce que tu viens de dire, ce qui me semble assez fort dans l'ouvrage et avec cette expression malaise dans la symbolisation, que devient une société quand elle emploie un langage qui ne nomme plus la réalité? C'est peut-être ça aussi l'effort pour
Mon principal adversaire, c'est la finance.
Voilà.
On y a cru ? Oui. Vous y avez cru ? Non. Ah, vous saviez déjà que ça serait... Ah, vous n'y croyez plus.
Merci pour cet exposé.
J'en profite pour remercier la librairie Mola, parce que c'est pas rien d'organiser ça. C'est pas rien que vous soyez venu alors qu'il faisait 42 degrés, etc. C'est pas rien qu'une parole puisse circuler, qu'il soit une parole où on a l'impression que ça nous permet de mieux comprendre et peut-être de créer du lien qu'on n'arrive plus à créer autrement. Et moi, je suis ravi et je vous remercie.
Eh bien, Vincent, dans ce monde du faux, on va te donner de vrais applaudissements.